Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex. Aujourd'hui, 37e numéro de Mare Nostrum, avec Fabrice à la technique et votre serviteur Raymond qui fait la préparation et la présentation. Cette émission va être consacrée aux potiers de Pompéi, et en particulier aux fouilles archéologiques, pour mettre au jour un des ateliers, avec même quelques éléments concernant d'autres ateliers. Alors, nous accueillons pour en parler donc Laetitia Cavassa. Bonjour.
Bonjour. Merci voilà, donc, pour l'invitation.
Ben, c'est avec beaucoup de plaisir parce que ben, les antiquistes, il n'y en a pas tant que ça, qui sont disponibles. Et apparemment, ils ont beaucoup de travail, toujours. Donc, vous êtes céramologue et ingénieur d'études au CNRS dans le laboratoire Camille Julian, à la MMSH, donc Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, donc, qui est notre partenaire habituel à Aix-Marseille Université. Donc, vous êtes une archéologue de terrain. Et on va le voir donc dans notre entretien. Vous êtes intéressé aux objets du quotidien découverts pendant les fouilles que vous avez menées, et vous êtes spécialisé plus particulièrement donc dans la céramique concernant donc toute la chaîne donc de la fabrication, les outils, de l'utilisation, etc. Et entre 2012 et 2018, c'est à Pompéi que vous avez poursuivi vos recherches. Vous avez effectué à Pompéi plusieurs missions, et ce sont ces missions qui vont nous servir un petit peu de fil conducteur dans cette émission. Alors donc, on va peut-être commencer par situer un petit peu l'importance de telles recherches archéologiques, en particulier pour l'Antiquité, faire comprendre donc à nos auditeurs que la recherche est indispensable à la connaissance. Alors voilà, pourquoi est-ce que c'est important ce type de recherche archéologique, d'aller gratter en quelque sorte, oui. Sortir des éléments et après réfléchir sur ces éléments?
Alors en fait, donc moi je travaille depuis 2002 à peu près en Italie, où j'étais partie faire mes études, et ensuite j'ai travaillé pour le premier laboratoire pour lequel j'ai été engagée, c'était pour le Centre Jean Bérard, qui est un laboratoire du CNRS qui est basé à Naples également. Ouais. Et ensuite, j'ai intégré le Centre Camille Julian en 2014, donc toujours le CNRS. Et mon travail au quotidien consiste en l'étude de tous les objets en céramique qu'on met au jour lors des fouilles. Donc, ce qui me permet d'identifier chaque objet, de dire d'où les objets viennent, de quand ils datent, à quoi ils servaient. Et au fil du temps, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux techniques de production, parce que je voulais comprendre comment on fabriquait ces objets. Mmh. Et donc, lorsque je travaillais encore à Naples, mon laboratoire, mais le Centre Camille Julian aussi actuellement, porte un programme de recherche sur l'artisanat antique, et plus particulièrement à Pompéi. Donc, il y a d'autres chercheurs qui ont étudié d'autres métiers, comme les tanneries, les parfumeries, etc., basé à Pompéi. Uh-huh. Et donc, connaissant la présence d'au moins deux ateliers de potiers qui fonctionnaient au moment de l'éruption en 79 après Jésus-Christ, j'ai commencé à travailler sur cette question-là. Uh-huh. Et donc, j'ai pu développer un programme de recherche à Pompéi sur ces ateliers.
D'accord. Donc, on va suivre un petit peu votre parcours pendant ces 6 années, c'est ça, hein ?
Oui, 2012.
Entre 2012 et 2018. Donc avec peut-être un point un peu sur le site en lui-même de Pompéi. Hein, donc chacun sait que Pompéi a été détruite par une éruption volcanique du Vésuve. Est-ce que ça présente un intérêt particulier justement ça ?
Alors oui, oui, effectivement pour nous c'est une mine d'informations Pompéi, puisque étant donné que la ville a été ensevelie par l'éruption du Vésuve, la vie s'est arrêtée d'un coup. Pour nous, évidemment, on a l'image d'une ville au 1er siècle après Jésus-Christ.
Figée.
Alors, on n'est pas les premiers à venir. Hein. Les ateliers de potiers que j'ai fouillés, ce n'est pas moi qui les ai découverts. Donc, j'en ai refouillé deux. Le premier a été découvert en 1838. Et donc, à cette époque-là, l'artisanat, c'était pas forcément la préoccupation première. C'est plutôt les objets d'art, les statues, etc.
Oui, c'est ça. C'était des fouilles un peu...
On appelle ça des dégagements. Ils dégageaient de tous les niveaux d'éruption, mais effectivement, ils ne s'attardaient pas forcément sur les traces d'artisanat. Et les fouilles qu'on a pu faire, nous, à partir de 2012, ont bien montré qu'il y a des petites traces fugaces qui ont été laissées de côté, heureusement, et qui, nous ont permis de répondre à nos questions lorsqu'on est arrivé sur ce site-là. Donc, effectivement, c'est une belle... pour nous, c'est une belle source d'informations.
Oui, c'est un site... oui, j'ai relevé cette expression que c'est un document majeur sur l'Antiquité.
Oui,
j'aime bien cette expression, quoi, parce qu'on a vraiment le sentiment que là, on trouve beaucoup, beaucoup de choses sur le quotidien, sur l'organisation de l'Empire
l'organisation
romain,
d'une ville, etc. La religion. Et bon, nous, en ce qui nous concerne, l'artisanat, on peut retrouver beaucoup d'éléments qu'on aurait du mal à retrouver dans d'autres sites.
Oui, parce que ça
parce que tout s'est arrêté d'un coup.
Tout s'est arrêté d'un coup. C'est ça qui fait la particularité de ce site de Pompéi. Et donc ces recherches, est-ce que vous partiez d'une recherche précédente? Est-ce que les archéologues, alors je sais pas si on peut les appeler comme ça, du 19e siècle, est-ce qu'ils ont laissé quelque chose sur lequel vous avez pu vous appuyer ou pas?
Alors, en fait, bon, pour replacer aussi, si je peux replacer l'histoire de cette fouille-là, donc moi, mon terrain d'approche, disons, c'était les ateliers de potier, donc celui-ci et un autre qui a été découvert entre 1959 et 1960. Mais le premier atelier que j'ai fouillé, c'est celui découvert au 19e siècle et qui fait partie d'un plus large programme sur tout un secteur de Pompéi. Donc, on est hors de la ville de Pompéi, dans un secteur de nécropole, mais au milieu aussi de riches demeures. Et puis, accolé à une de ces riches demeures, on trouve un espace à vocation commerciale et artisanale. C'est un long bâtiment d'un peu plus de 80 mètres de long qui abritait une quinzaine de boutiques, des boutiques très simples de deux pièces avec un étage, et qui abritait plusieurs corps de métier, disons. Et donc, à l'extrémité de ce bâtiment se trouvait le potier.
Et c'était une zone commerciale.
Une zone commerciale, ouais, si
ça,
on veut, oui.
Hors
de la ville, ville. Et donc, c'est tout l'atelier de potier que moi, j'ai étudié plus particulièrement, fait partie d'un programme plus large que j'ai co-dirigé avec trois autres de mes collègues, donc qui s'appelle Nicolas Montex, Nicolas Lobry et Sandra Zanella. Et c'est un programme que nous avons mené entre 2012 et 2016. Qui fait partie aussi des axes de recherche de l'École française de Rome.
D'accord.
Et donc, dans cette mission-là, moi, mon point d'accroche, c'était les potiers, parce que je voulais avoir une vision plus large sur toute la ville. Et donc, j'ai commencé par cet atelier-là, qui a donc été découvert au 19e siècle. Et bon, on a quand même quelques traces, quelques éléments concernant cette première découverte. Notamment, on a quelques manuscrits, quelques pages des journaux de fouilles.
Ah oui, quand même.
Oui. Non, c'est assez... c'est assez intéressant, pardon. Donc, on a trois pages, qui nous disent que le 15 octobre 1838, ils découvrent un four pour la cuisson des céramiques. Et ils nous parlent aussi de la production. Ils appellent ça des pignatines. Des pignatines, donc sans préciser ce que c'est. Donc, c'est un mot...
C'est-à-dire, ils fabriquaient des pignatines.
Voilà, ils appellent ça pignatines. Pour identifier les objets cuits dans ce four-là.
D'accord.
Donc
c'est un terme provençal, la pigne. Hein.
Oui,
c'est
le retrouve aussi, oui. C'est un vase aussi.
C'est un vase en terre cuite qui sert à faire la cuisine.
Oui.
Hein, c'est ça.
D'où toute l'histoire de cette fouille, en fait.
Oui.
Parce que quand je reprends le dossier en 2012, donc la seule information qu'on ait, c'est la présence d'un four de potier qui est bien conservé. Et c'est quelques lignes, un four de potier découvert en 1838 dans lequel on produisait des pignatines, sans savoir ce que c'est.
D'accord.
Voilà.
Donc, c'était peu, quand même.
Oui, mais effectivement, l'idée principale de beaucoup, c'était qu'on était dans un atelier qui fabriquait des vases pour cuire les aliments.
Bon. Ouais.
Et puis, les premiers jours de la fouille vont nous montrer qu'il ne s'agissait pas de vases à cuire. Mais effectivement, toute une recherche autour du mot pignatini, parce que c'était vraiment le mot qu'on retrouvait dans les journaux de fouilles. Et puis, bon, en travaillant un peu sur le mot, j'avais trouvé des mentions en Italie de ce mot qui pouvait qualifier aussi bien une cruche conserver des liquides comme des plats pour cuire des soupes.
Oui.
Donc, c'était deux choses différentes. Et puis, du point de vue de la technologie des potiers, c'était deux types de vases différents qui faisaient appel à des techniques de fabrication différentes, notamment au niveau des argiles, par exemple.
Mmh.
Donc voilà, on partait avec cette idée, un four et quelques lignes qui nous mentionnent.
C'est vrai que c'était peu, hein.
C'était pas
Ah oui, c'était pas beaucoup, hein, quand même. Vous aviez du courage de vous lancer, puisque avec uniquement ça comme point de départ, ben, il fallait.
Oui, il y avait surtout une bonne équipe de fouilles aussi.
Ah ben, bien sûr, ben, évidemment. Alors je vais vous proposer d'écouter un petit peu de musique. On écoutera un autre morceau tout à l'heure. C'est un ensemble qui s'appelle Sinaulia, Sinaulia. NAU, qui a été créé par un musicologue qui s'appelle Walter Maioli, qui est un Italien, pour reconstituer, pour rechercher la musique ancienne, et en particulier la musique antique romaine. Et donc ce morceau, il s'appelle Magna Mater, Magna Mater, si on préfère. Bon, donc, septembre 2012, vous voilà à pied d'œuvre, avec trois lignes dans un grimoire, et l'idée qu'il y a quelque chose de plus à découvrir. Alors, donc, à l'extrémité de ce long bâtiment que vous évoquiez tout à l'heure, qui est donc la cité commerciale, en quelque sorte, extérieure de la ville, vous avez donc un certain nombre de boutiques, et vous travaillez donc sur la boutique, je vois dans les papiers que vous m'avez fournis, la boutique numéro 29.
Oui.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver d'intéressant dans cette première année de travail sur le terrain ?
Alors, on a eu beaucoup de chance, parce que dès les premiers jours, donc c'était une toute petite campagne de 15 jours, c'était un premier travail de nettoyage. L'idée, c'était de refaire le plan, d'étudier le four, parce que c'était le seul point visible de l'atelier. C'est le seul élément clair qui indiquait la présence d'un atelier de potier. Et donc, en nettoyant la pièce du four, on a trouvé à quelques centimètres, une cinquantaine de centimètres, dans un angle de pièce, des lapillis encore en place. Donc, les lapillis, ce sont les pierres ponces qui se sont échappées du Vésuve au moment de l'éruption et qui ont recouvert la ville de Pompéi, et dans un angle de pièce, on avait encore des lapillis en place.
Qui étaient de l'époque, quoi.
Qui dataient de 79, qui n'avaient pas été
bougés.
Voilà, qui n'avaient pas été bougés par les fouilleurs du 19e. Et puis, au milieu de ces pierres ponces, on a vu apparaître des formes sphériques, un peu étranges au début. Et on s'est vite aperçu, on a vite compris qu'il s'agissait de vases crus déposés à même le sol par les potiers. Parce que donc, quand un potier fait un vase, il va le faire, bon, dans notre cas, c'est des vases qui sont faits sur un tour. Nos vases, là, sont décorés, ils sont engobés, donc recouverts d'un engobe. Et ils étaient décorés de petites incisions qui décoraient toute la panse du vase. Et ces vases-là sont mis à sécher avant d'être cuits pour éviter que la production casse au moment de la cuisson, pour que l'eau s'évapore un petit peu. Et donc, ces vases ont été faits, décorés, posés à même le sol et recouverts par l'éruption du Vésuve. Donc là, on a eu la chance d'arriver 2000 ans après et de découvrir ces vases posés, plus ou moins bien conservés, mais suffisamment pour comprendre de quoi il s'agissait, et donc de récupérer cette information qui nous a permis de comprendre tout de suite quelle était la production de l'atelier.
Oui, parce que ça doit être assez exceptionnel de trouver justement des vases crus, parce qu'ils ont du mal à résister quand même, d'habitude.
Oui, ils ont du mal à résister, parce que l'ennemi principal étant l'eau aussi, parce que si on crue, si on met de l'eau, ça va fondre. Et du coup, c'était une découverte assez exceptionnelle et émouvante, finalement, parce qu'ils avaient été déposés là par les potiers. On est les premiers à les toucher juste derrière.
Ah oui, c'est vrai que...
Donc c'est assez... Oui.
Alors qu'est-ce que ça vous a appris, ces vases crus?
Alors du coup, on a pu identifier tout de suite ce qu'étaient les pignatini mentionnés par les journaux de fouilles. Donc il ne s'agissait pas du tout de vases pour cuire les aliments, mais de gobelets utilisés pour boire...
Pour
boire du vin ou pour boire un autre liquide. Donc ce sont des petits, on appelle ça des gobelets à parois fines, parce qu'ils ont la pince du vase est très fine.
D'accord.
Et donc voilà. Donc ça, la première information au moins, c'est que ça nous a permis d'identifier clairement quel type de vase était produit le jour de l'éruption du Vésuve.
Oui, déjà un type de
donc
production.
C'était déjà bien.
C'est déjà pas mal. Alors donc, vous découvrez cette première production, qui est donc faite de gobelets. Et donc, c'est pour la première année une découverte qui est quand même déjà pas mal. Donc, du coup, l'année d'après...
Du coup, on prend un peu plus d'ampleur. Et puis, en travaillant ensuite sur le plan ou sur l'histoire du bâtiment, on va un petit peu vérifier ce qui se passe aux boutiques mitoyennes. Parce que la boutique en question se trouve entre deux autres espaces. La boutique 28 et la boutique 30, l'espace 30,
forcément.
Peu importe, 28 et 9, 30. Mais du coup, on va un petit peu les années à la suite, jusqu'en 2015 au moins, travailler sur ces trois boutiques pour comprendre aussi, parce qu'au-delà de s'intéresser à la présence d'un four, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre l'organisation d'un atelier de potier. Parce que souvent, on se concentre sur le four, mais il ne faut pas oublier que toute l'organisation interne d'un atelier, et c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, on va découvrir les années suivantes la salle de travail des potiers avec la découverte de quatre tours de potiers, de l'emplacement de quatre tours de potiers qui était aussi ça, une donnée inconnue jusqu'à présent à Pompéi. Et on ne connaissait les tours de potiers que par la présence de fresques, de peintures retrouvées à Pompéi qui nous montraient des potiers en train de travailler sur des tours, mais on n'avait jamais pu découvrir ce genre de structure à Pompéi. Donc c'était là aussi une amplitude de données qu'on arrivait à mettre au jour.
Oui, donc ça c'est la découverte en 2013, c'est ça ?
Les tours de potiers, on est en 2014.
En 2014, oui. D'accord. Les tours de potiers, alors je sais que ces tours de potiers... quand je suis venu vous voir, dans votre labo, vous m'en avez montré un.
Oui, alors parce que du coup, c'est un point qui m'intéresse particulièrement. On les a trouvés, ça se matérialisait comme de simples cavités creusées à même le sol, parce qu'il restait que les négatifs, en fait, le bois avait quasiment disparu. Oui. Bon, nous, évidemment, toujours pareil, avec l'éruption du Vésuve, il y a quand même des données qui ont été préservées. Et ces trous faits à même le sol étaient remplis de lapilli. Mais au milieu des lapilli, on a trouvé des clous avec des restes de bois qui sont en cours d'analyse. Et puis, on a trouvé divers éléments qui nous permettent de comprendre, de faire des tentatives de restitution pour comprendre comment fonctionnaient ces tours. Donc effectivement, on s'est lancé dans la reconstruction d'un tour. pour essayer de voir comment ça fonctionnait. Alors, c'est pas si mal pour l'instant, ça tourne, c'est déjà ça.
Ah oui, moi je l'ai vu. Hein.
Voilà.
Moi je l'ai vu.
Du coup, non, voilà, c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Et du coup, effectivement, je multiplie les expériences autour de ces tours de potier.
Bon, vous avez tourné ?
Alors, j'ai tourné, oui. Bon. Alors, moi je suis une apprentie hein, potière pour l'instant. Non, mais du coup, effectivement, je travaille avec une potière qui s'appelle Geneviève Doya, qui est à Lambesque. Et qui m'a initiée à la poterie au final, parce que j'en avais jamais fait. Mais c'est pas totalement inintéressant de travailler. Enfin non, c'est très intéressant justement parce que le geste reste, même si elle travaille avec un tour électrique, le geste, la manière dont on fait les vases, ça change pas. Ça change pas. Bon, après moi je suis pas encore hyper douée, mais mais c'est vraiment très intéressant parce que d'avoir travaillé avec des potiers. Moi, ça m'a permis de comprendre des petites choses qu'on trouvait sur le terrain en fouillant un atelier.
Oui.
Et du coup, voilà, des petites traces subtiles de travail du potier qu'on retrouve sur le terrain. En voyant un potier travailler, on comprend tout de suite les liens entre ces différents éléments.
Et oui, ben bien sûr, oui, c'est pas du tout la même chose que de l'imaginer et puis de pouvoir concrètement voir le oui. travail.
Et pratiquer potier. Vraiment la poterie, c'est le lien entre le terrain et faire de la poterie, ça peut faire rigoler les gens, mais c'est vraiment hyper utile, enfin, en tout cas pour moi.
Oui, bah bien sûr, oui, et puis c'est toucher véritablement la matière qui a été utilisée à ce moment-là, donc c'est quand même...
Et comprendre comment ils travaillaient.
Et comprendre comment ils travaillaient. Oui. Alors après, on va y revenir. On va écouter une petite musique encore. C'est un groupe de musique ancienne qui chante une... qui joue une chanson, une musique qui s'appelle Pompéi. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce morceau, mais on va quand même l'écouter. Allez, hop. Vous êtes sur Radio Zinzine et vous écoutez Mare Nostrum. Nous sommes en compagnie de Laetitia Cavassa et nous parlons donc des potiers à Pompéi. Donc, ces potiers, ils travaillent sur des tours. Alors, quand on parle de tours, on a l'habitude de voir les tours telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, c'est-à-dire deux plateaux circulaires reliés par un axe. Et donc, sur le plateau circulaire du bas, ben, on pédale en quelque sorte. Et sur le plateau du haut, ben, on façonne le pot. Est-ce que c'était la même chose alors ?
Non. Alors, du coup, nos potiers pompéiens, ils avaient un tour bas, donc au ras du sol. Ils étaient certainement assis sur un tabouret ou accroupis. En tout cas, accroupis, c'est peut-être pas pratique, mais au ras du sol. Et il n'y avait pas deux plateaux. Donc, un seul plateau, la girelle, en partie supérieure, sur laquelle ils vont positionner l'argile et monter leur vase, faire leur vase. Et ce plateau, il est actionné à la main. Soit à la main, soit par un bâton qui permet d'obtenir suffisamment d'inertie pour ensuite monter les vases. Et c'est des tours qu'on appelle à axe fixe. C'est-à-dire que dans le sol, on trouve un pieu en bois qui est bien installé en profondeur, sur 50 cm de profondeur par exemple, dans la terre. Et par un système entre un pivot et une crapaudine. Crapaudine qui est installée dans la girelle, dans le plateau. La rotation va s'effectuer. D'accord, et donc, les tours à pied sont des inventions plus tardives, Renaissance.
Ah oui, d'accord.
Donc là, pour la période antique romaine, on a des tours actionnés à la main.
D'accord, oui. Oui, donc c'est-à-dire que le plateau, il est en équilibre un peu sur cet axe. Et puis,
Oui, mais ça tient bien.
Et ça tient
ça
bien.
Ça fonctionne bien. En tout cas,
oui,
ce qu'on a essayé.
Oui,
voilà, c'était une des des principales questions, justement, d'essayer. Si, parce que nous, du coup, on fouille, on a retrouvé. Parmi les quantités de clous de petite taille qu'on a retrouvés, dont on pense que ces clous appartenaient à la girelle, au milieu, à chaque fois, on a retrouvé un clou beaucoup plus gros,
donc, qui était
le pivot, et dont on voyait bien que seule la partie inférieure était dans le bois. Le reste était à l'air libre, il y en avait même certains avec des lapillis encore collés dessus. Et on a retrouvé aussi une crapaudine. Et donc tout fonctionnait bien. Donc là, l'idée de refaire un tour, c'était aussi de voir si ce système fonctionnait réellement, était suffisant pour tourner. Donc ça tourne. Mais là, la roue n'est pas assez lourde encore. On a pas,
pourtant, elle a l'air costaud parce qu'elle est assez épaisse.
Oui, mais on a un problème de densité. C'est pour ça qu'on attend aussi le résultat des analyses de bois trouvées sur les clous pour voir l'essence, enfin pour connaître l'essence exacte utilisée pour avoir une idée de la densité du bois.
Oui.
Parce que du coup, ça va jouer aussi sur le poids.
Oui, d'accord.
Donc voilà, c'est encore en cours de construction.
Oui, c'est encore une interrogation.
Voilà.
Ouais, mais la recherche est faite d'interrogations, bien sûr. Donc, ça, c'était 2014. On va passer à 2015. Alors, 2015, vous commencez à voir un petit peu l'environnement.
2015, oui. Alors, on s'étend un peu plus. On va voir l'extrémité du bâtiment, l'espace 30, qui communique avec le premier espace qu'on avait dégagé. Là, on savait par les textes aussi, les témoignages du XIXe siècle, qu'il y avait aussi un autre four, mais pas totalement fouillé apparemment, mais qui avait disparu, oublié, ou avec le temps, on n'avait plus de traces visibles réellement sur le terrain. Notamment aussi parce que Pompéi a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, et une bombe est tombée dans les environs même de l'atelier de potier, ce qui a recouvert l'espace 30 en particulier. Et donc effectivement, en 2014, on commence à travailler dans ce secteur-là, et puis on retrouve deux fours, un qui fonctionnait en 79 au moment de l'éruption, et un légèrement plus ancien, mais donc qui témoigne du fonctionnement de l'atelier de potier. Et puis en 2015, on s'étend. Enfin, pour compléter les données concernant cet atelier, on s'étend un petit peu. Et là, on va arriver sur des nouvelles données qui n'ont rien à voir avec l'histoire qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas liées. Enfin, oui, aussi. Qui ne sont pas dans la thématique des ateliers de potiers. Mais on va mettre au jour une sépulture un peu plus ancienne qui était. Voilà, proximité immédiate de l'atelier de potier.
Ouais, c'est la découverte. C'est le petit plus de la découverte.
C'est le petit plus. Alors, c'était pas prévu au programme dans le sens où notre programme ne portait pas sur ça. Après, on savait qu'on était dans un secteur de nécropole, mais ce qui n'était pas évident, c'était que on savait que des tombes anciennes avaient été découvertes dans ce secteur. On pensait pas qu'il en restait encore à cet endroit-là qui n'avait pas été fouillé. Or, là, ça a été le cas. On a découvert entre 2015 et 2016 trois sépultures, dont deux intactes ou quasi intactes, et qui datent du 5e siècle, entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, donc avant, bien avant l'installation de nos potiers. Mais donc, ça montre que nos potiers se sont installés juste à côté de ces sépultures.
Ouais. Et Pompéi existait déjà ?
Oui, alors ça c'est
parce
la...
Je ne connais pas la date de création,
oui,
de fondation
de Pompéi. Les premières traces, c'est le 7e siècle avant Jésus-Christ.
D'accord.
Et
ouais.
C'est la période samnite.
Oui.
Donc les samnites, c'est une population qu'on trouve au nord de Naples, dans l'arrière-pays, qui vont ensuite descendre sur les côtes et qui vont avoir une longue occupation du secteur. Et Pompéi sera... une ville samnite jusqu'aux guerres sociales au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Mmh.
Une ville sous domination samnite. Et donc là, on trouve deux... on met au jour deux sépultures de cette période-là.
Oui, donc finalement, vous êtes réorienté là, sur le tas. Enfin,
on s'est adapté.
Vous êtes adapté, oui.
Oui, oui. Non, mais après, bon, ça reste de la fouille. On a eu la chance d'avoir des anthropologues qui étaient là... qui étaient sur une autre fouille, mais qui sont venus participer et qui nous ont aidés, donc Henri Dudet, qui est un grand anthropologue et qui nous a permis qui a pu fouiller cette tombe-là avec nous. Et puis voilà, donc c'était une belle découverte.
Oui, ça a appris des choses intéressantes, pour pas sans s'apesantir.
Non, mais c'était intéressant parce que c'est des périodes qui sont peu documentées pour l'instant à Pompéi, du point de vue archéologique. Et puis là, c'est une tombe quasi intacte avec de belles pièces de musée, hein, de beaux vases à décor figuré.
D'accord.
Et avec, pour l'instant en tout cas, c'est la première qu'on a découverte, c'est la plus ancienne sépulture connue à l'heure actuelle à Pompéi.
Oui. Donc avec une poterie qui est plutôt une poterie d'apparat.
Alors oui, c'est des vases. Alors là, la première sépulture, c'était la sépulture d'une femme. Et elle était accompagnée de 11 vases avec des fibules sur le torse. Et donc, elle avait des vases, un skiphos, des vases à boire, des vases qui contenaient des liquides,
mm-hmm.
avec des décors peints ou surpeints, représentant des animaux ou des scènes mythologiques. Voilà.
Alors, cette récréation faite, parce que c'était une récréation,
oui.
Il a fallu quand même continuer.
On a continué.
Il a fallu continuer, et donc... vous êtes allé vous intéresser à un autre atelier.
Oui, alors parce que du coup, entre 2012 et 2015-16, on a exclusivement travaillé sur cet atelier de potier. On a pu fouiller l'intégralité du secteur de l'atelier, ce qui nous a permis de reconstituer l'histoire de cet atelier depuis sa fondation jusqu'à l'éruption du Vésuve et de répondre donc à beaucoup de questions, son organisation, la production, etc. Et du coup, le programme que j'avais lancé sur la production céramique a pu se déplacer en ville cette fois. Donc on traverse tout Pompéi, on va à l'autre extrémité. On est en ville, mais contre les murs de la ville.
Oui.
Donc quand même, pas à l'extérieur, mais quasi,
mais pas loin.
Quoi, pas loin. Oui. Dans un autre atelier qui a une autre histoire. Du coup, ça c'est un atelier qui s'installe tardivement dans l'histoire de Pompéi, dans une maison. Qui est transformé en établissement artisanal durant la dernière période de vie à Pompéi.
Mmh.
Donc cet atelier-là, comme le précédent, c'est pas nous qui l'avons découvert. Hein. Il a été dégagé entre 1959 et 1960. Et là, par contre, l'histoire est un peu différente parce qu'on sait dès le départ que cet atelier abritait une production de lampes à huile faites dans des moules et de petits vases appelés fritillis. Des petits godets, des petits gobelets très simples, faits autour, donc qui avaient été retrouvés. Donc là, les questionnements étaient différents, parce qu'on savait ce que l'atelier avait produit. On avait un peu plus de données visibles. Il y a deux fours, un bassin pour préparer l'argile. Et donc là, l'idée de la reprise, bon, c'était de compléter le dossier, puis d'avoir un peu plus d'éléments sur la chronologie, pour comprendre quand est-ce qu'exactement cet atelier s'est installé dans cette maison-là.
Oui.
Donc là, c'est une campagne qui a duré... Enfin, on a fait deux petites campagnes de fouilles, en fait, parce que les questionnements étaient plus restreints. Et là aussi, on a encore eu de la chance, parce qu'on a, découvrir un autre tour de potier qui n'avait pas été vu non plus par nos prédécesseurs. Donc voilà, c'était...
qui était sur le même modèle que les autres.
Exactement, sur le même modèle, oui. Donc c'était intéressant, ouais. C'est intéressant. Donc maintenant, on a 5 tours de potier. Donc ça vient ouais. compléter tout le dossier pour cette question-là à Pompéi.
Et ils sont spécifiques à Pompéi ou non ?
Non, pas vraiment. Là maintenant, on commence à bien connaître les tours de potier sur d'autres sites.
Oui, il n'y a pas de modification et de particularité.
Non, il n'y a pas de... Enfin, c'est une adaptation à ce qu'ils ont sous la main, oui. parce que c'est fait avec des amphores qu'ils ont sous la main, qu'ils vont couper en deux pour s'en servir, mais mm-hmm. c'est pas... voilà.
D'accord.
Voilà.
Alors donc, vous avez réussi donc à... un peu à examiner la production. Alors, moi, j'aimerais que vous nous parliez justement un petit peu de la production, de l'organisation de l'atelier d'abord, puisque vous avez vu, au bout du compte, vous avez vu trois sur le premier site, et puis plus celui-ci qui est un peu particulier, qui est dans une maison.
Deux ateliers de potier.
Oui.
Mais avec des organisations, oui, un peu différentes.
Oui. Alors, comment ça s'organise, ces ateliers de potier ? Puis après, je vais vous demander de nous parler un peu de la place de la poterie localement, puis peut-être on exporte.
Oui. Alors en fait, comme ces ateliers ont deux histoires différentes, l'organisation, on voit bien que ça s'adapte à leur réalité. Enfin, je sais pas comment. Alors, il y a une répartition des tâches qui s'adapte aux structures qui sont déjà en place. En fait, par exemple, pour l'atelier de lampes à huile, ils ont réoccupé un habitat. Enfin, ils ont occupé un habitat qu'ils ont adapté à leurs besoins. Mais on voit bien qu'il y a une répartition bien précise des tâches entre la zone de travail de l'argile, donc qui arrivait sur place, mais qui devait être aussi traitée par le potier, qui devait la préparer pour qu'elle soit bonne à être travaillée. Et puis, ils s'adaptent comme ils peuvent. Par exemple, le tour de potier de l'atelier qui se trouve en ville, il est installé dans un couloir. C'est un emplacement un peu, a priori, qui ne semble pas être le plus adapté, mais on est en plein milieu d'un couloir. Ah assez oui. large, mais en tout cas, on est en plein milieu d'un couloir. Par contre, l'autre, non, ils sont dans une pièce qui fait 5 mètres sur 4 mètres.
Ouais.
Et puis, ils sont alignés contre un mur.
Oui.
Donc, on voit qu'ils s'adaptent un peu à ce qu'ils ont
pas
besoin.
Pas d'explication particulière sur ce...
Non, mais c'est une réoccupation d'un espace ouais. qui s'approprie. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu, en fouillant les deux ateliers, comprendre un peu l'organisation de la chaîne opératoire en ayant plusieurs étapes du travail représentées.
Oui.
Donc, on a un secteur où ils travaillent clairement l'argile. Ils la préparent, ils vont rajouter les dégraissants, donc qui va permettre de mieux travailler l'argile ensuite. On a donc les zones de tour, on a les aires de séchage pour les vases, et puis on a des zones de cuisson.
Ouais.
Et des fours qui sont quand même bien conservés, quasiment en intégralité. Pardon. Il nous manque que la voûte qui fermait la partie supérieure du four.
Ils ont échappé donc à la destruction.
Alors non, ils ont été. Enfin, le temps a fait que ça s'est un peu abîmé, mais on a des témoignages des restes de la voûte. On a assez d'éléments aujourd'hui pour reconstituer exactement la voûte telle qu'elle était.
Mmh. Et est-ce qu'on peut dire qu'entre les deux ateliers, l'atelier le plus récent, il s'est mis en place peut-être parce qu'il y avait une demande d'une poterie plus. Peut-être plus riche, plus... Non ?
Non, alors en fait, c'est deux ateliers qui produisent des vases complètement différents, mais qui répondent à une demande locale.
Mm-hmm.
Ce n'est pas des productions qui sont exportées à large échelle, hein, c'est presque de l'autoconsommation.
Mm-hmm.
C'est des vases qu'on va retrouver à Pompéi ou dans le territoire immédiat.
D'accord.
Ce ne sont pas les grosses amphores à vin
qu'on a l'habitude.
Voilà, ouais. Parce qu'on sait qu'à Pompéi, ils fabriquaient des amphores à vin, par exemple, qu'on va retrouver dans plusieurs endroits en Méditerranée.
Mm-hmm.
Mais là, non, les vases de ces deux ateliers-là sont des vases qui étaient destinés à Pompéi ou le territoire immédiat.
D'accord.
Voilà. Ouais.
Alors, on va écouter un petit peu de musique, de la musique plus récente. On ne pouvait pas y échapper, enfin, en tout cas, on ne pouvait pas y échapper. On va écouter Echoes des Pink Floyd pour leur concert à Pompéi.
Thank you.
Laetitia Cavassa, revenons un petit peu sur quelques éléments sur lesquels je veux vous interroger encore, parce que ça, je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de gens. Alors, j'ai un peu serré un certain nombre de questions. D'abord, les potiers. Alors, est-ce qu'on sait quelque chose sur ces gens qui travaillent dans les ateliers? Quelle est leur position dans la ville? Quelle est leur... comment est-ce que vous avez réussi à trouver des éléments qui permettent au moins d'avoir peut-être pas des réponses définitives, mais quelques pistes?
Alors oui, effectivement, nos potiers ne signaient pas leur vase dans ces ateliers. Et du coup, on a tenté une expérience. C'est l'initiative d'une anthropologue qui s'appelle Aurore Lambert, qui m'a proposé d'étudier les empreintes digitales laissées par les potiers sur les vases au moment de la fabrication. Donc c'est une expérience qu'on a menée en novembre dernier avec Aurore et André Desmarais. Et donc le but de l'expérience a consisté à regarder les milliers de fragments de céramique que nous avons trouvés en fouille à la recherche des empreintes digitales laissées sur l'argile fraîche avant la cuisson des vases, donc,
bien sûr,
qui s'est conservée. Parce que du coup, ça c'est un programme d'Aurore qui est parti à la recherche des traces digitale, pour faire une étude des potiers, puisque il y a plusieurs éléments qui peuvent être déterminés, notamment l'âge du potier, par exemple. Donc ça peut nous donner une image un peu plus précise des gens qui travaillaient dans ces ateliers. Et puis, c'est des expériences qui avaient été menées sur d'autres sites. On peut arriver à déterminer s'il y a une micro-organisation, par exemple, dans l'atelier. Par exemple, pour un même vase, on peut voir différentes mains qui ont travaillé sur un même objet, c'est-à-dire il y a le tourneur, celui qui a tourné le vase, puis on peut trouver d'autres empreintes digitales pour la personne qui a accroché l'anse du vase, par exemple. Ouais. Donc ça peut nous permettre de comprendre qu'il y a un travail à la chaîne, par exemple.
D'accord,
parce que
être
tourneur, c'est une vraie spécialité, ça demande du travail et des capacités. Par contre, accrocher une anse...
C'est plus simple.
C'est plus simple parce que c'est un vrai métier d'être tourneur. Vraiment, c'est pas.
Oui, c'est pas facile.
Voilà, c'est pas facile. Du coup, on a tenté l'expérience. Donc, ils ont relevé plusieurs empreintes. Donc, avec pour l'instant des résultats qui sont pas encore totalement définitifs. Donc, on attend un peu de voir ce que ça donne. Mais bon, c'est un travail qu'elle a déjà fait sur d'autres sites, notamment à Lezoux, sur un autre site de potiers où ils ont eu de très bons résultats. Pour l'identification de ces potiers.
Et est-ce qu'on voit un partage du travail, la présence d'enfants, la présence de femmes?
Alors, c'est un peu le but, oui, de cette recherche-là, d'identifier s'il y a des femmes, des enfants, des hommes, etc. Donc là, ils ont eu des résultats beaucoup plus concluants pour leur autre atelier. Nous, pour l'instant, c'est encore en cours.
C'est encore en cours,
voilà. Puis on n'avait pas beaucoup d'empreintes par rapport à ce qu'ils ont pu avoir...
Oui, et puis le nombre de personnes qui travaillaient dans les ateliers, etc.
Et puis nous, on a des vases aussi qui avaient, par exemple, un décor sablé. Ils étaient, donc, une fois que le potier a fait le vase, c'est encore frais, il va le rouler dans le sable.
Et donc
c'est
rugueux.
Voilà, c'est rugueux et les empreintes sont moins bien conservées.
Et oui.
Donc voilà, bon, c'était une expérience à mener, qu'on a réalisée. Donc on va voir maintenant
Et sur ce que vous avez trouvé, votre découverte de vase cru, là, il n'y avait pas plus?
Non.
Pas forcément.
Donc, bon, on a essayé, on a tenté.
C'est vrai que c'est intéressant. C'est à faire, parce que ça permettrait de savoir comment fonctionnait cette catégorie d'artisans et savoir qui travaillait Et alors, bon, donc, les potiers, c'est ça. Et les potiers, ils travaillent l'argile. Alors, je sais que sur les argiles aussi, il y a des travaux qui ont été faits.
Alors, c'est une question aussi sur laquelle on travaille avec des géologues napolitains depuis de nombreuses années, pas seulement à Pompéi, mais donc j'ai travaillé aussi avec eux sur un autre site qui s'appelle Cume, qui est dans la baie de Naples, enfin au nord de la baie de Naples, dans les champs phlégréens. Donc avec ces géologues, dont l'équipe est dirigée par Celestino Griffa, qui travaille en Italie à l'université de Bénévent, donc qui est au nord de Naples. On a pu prélever des argiles dans les vases. Enfin, on a pu prélever des morceaux de vases qu'on a trouvés dans ces ateliers et ils ont pu faire des analyses. Et surtout, le fait qu'on ait trouvé des vases crus était une chose particulièrement intéressante et importante dans notre recherche parce que dans l'argile crue, il y a des microfossiles qui se détruisent au moment de la cuisson des vases. Mmh. Donc nous, là, en ayant l'argile crue, les microfossiles étaient toujours présents. Et comme ces géologues ont une très bonne connaissance du territoire autour de Pompéi et de toute la région, ils ont répertorié plusieurs carrières d'extraction d'argile. Et ils ont pu identifier, grâce à la présence notamment de ces microfossiles, des carrières précises, enfin une carrière précise d'extraction de l'argile de notre atelier pompéien.
D'accord, oui.
Donc ça nous permet de savoir d'où venait l'argile. Et donc là, on entre dans un autre, une autre réflexion liée au transport et au commerce des matières premières.
Oui, oui, vous remontez en quelque sorte la chaîne de production.
Voilà. Non, on a essayé, en fait, au-delà de la fouille de terrain, de travailler dans l'interdisciplinarité, en travaillant avec d'autres spécialistes. Donc on a aussi une anthracologue, Sylvie Coubré, qui est en train d'analyser le bois et les combustibles utilisés pour la cuisson des fours. Et donc, on essaye d'avoir le maximum de connaissances sur ce travail.
Oui, et puis une vue qui est assez globale, finalement. Voir ce qui se passe avant, voir... C'est intéressant de voir qu'on ne s'arrête pas simplement à la céramique, on voit vraiment ce qu'il y a autour. Oui. Et il y a beaucoup de choses autour. Oui. À la réflexion, il y a beaucoup de choses. Les gens, comment ils travaillent, qui travaillent,
d'où viennent
leur place,
les produits.
D'où viennent les produits. Donc c'est quand même, c'est quand même une réflexion qui est plus globale et qui fait justement appel à
plusieurs sciences, plusieurs spécialistes.
Plusieurs spécialités, c'est ça. Oui. Mais c'est bien parce que il y a quelques temps, j'avais donc invité une de vos collègues qui travaille sur la préhistoire et qui, elle aussi, utilise quantité de connaissances scientifiques diverses, justement pour avoir cette vue plus globale des choses et une vue plus globale dans la recherche. Alors, encore deux petites questions. Tout à l'heure, on a évoqué rapidement la possibilité de vendre et quel était le devenir des poteries produites. Et donc, vous m'avez dit que finalement, c'était des poteries qui étaient très locales, destinées donc à un usage local, au marché local, sans plus, quoi. C'est-à-dire que c'était du domaine du quotidien qui était utilisé quotidiennement. Mais il y avait quand même des potiers qui travaillaient pour l'exportation.
Oui. Alors, même si on n'a pas dégagé, fouillé physiquement les ateliers, on sait qu'à Pompéi ou dans le territoire immédiat, on produisait des amphores qui transportaient du vin et qui, elles, étaient exportées à une plus large échelle. On en a retrouvé dans certaines épaves de la côte provençale, où ils en ont retrouvé aussi à Carthage au XIXe siècle, je crois, ou début XXe. Mais là, la démarche est différente. Ce n'est pas l'amphore qui était commercialisé en tant qu'objet, mais c'est plutôt qu'elle contenait. Voilà. Donc là, c'est le vin qui voyageait. Mais en l'occurrence, c'était des amphores qui étaient produites à Pompéi, ou sur son territoire, enfin, certainement à l'extérieur de la ville, de toute manière, parce que ça demande des espaces plus gros. Bon, on n'a pas les ateliers, mais on sait que ça vient de là, de toute manière, notamment grâce à l'argile. À l'argile et au timbre, parce que certaines de ces amphores sont timbrées et portent le nom de personnalités pompéiennes. qu'on connaît par des textes ou par des inscriptions.
Ah d'accord. Comment ça, ça ils portent des, les enfants, ils portent des noms.
Alors, mais il y a le timbre,
oui,
le,
du fabricant. Potier, bah,
voilà.
Ah, d'accord, voilà. Oui, d'accord.
Ou le propriétaire de l'atelier, en tout cas.
Le propriétaire de l'atelier. Voilà. Pourquoi il y avait un système comme ça d'atelier dépendant de gestionnaire un peu plus large, qui avait plusieurs ateliers ou des choses comme ça.
Il y a des propriétaires, oui, qui... Alors, toutes les céramiques ne sont pas timbrées.
Oui.
Mais il y a des propriétaires, oui, et des productions particulières qui sont timbrées. Pas forcément systématiquement, mais du coup, voilà.
Oui, c'est le niveau au-dessus un peu de la production. Pas forcément.
Pas forcément, je pense, mais c'est... Bon, pour les amphores, on trouve... elles ne sont pas toutes timbrées, mais ça arrive. Enfin, y a, au milieu d'un lot d'amphores...
Il y en a quelques-unes.
Oui, il y en a qui sont timbrées, oui. D'accord. Du coup, ça nous importe des informations chronologiques aussi, et sociales, disons, au niveau de...
De l'organisation.
De l'organisation et de l'identification des propriétaires.
Oui, d'accord. Oui, ok. Et dernière question. Tout à l'heure, on parlait de cette grande maison, ça m'a vraiment interrogé. Donc, pourquoi les potiers se sont-ils installés dans une grande maison pour installer un grand atelier, finalement ?
Alors, grand, on est sur 100 mètres carrés à peu près.
Ah, oui.
Un peu comme l'autre, le premier atelier dont je vous ai parlé, qui est hors de la ville. Mais là, typiquement, le deuxième, celui donc, qui fabriquait les lampes à huile, il s'installe donc dans une maison durant la dernière période de vie de Pompéi, puisque donc avant l'éruption de 79 après Jésus-Christ, Pompéi connaît déjà un épisode douloureux avec un gros tremblement de terre dans les années 62-63 après Jésus-Christ, qui va fortement endommager la ville. Et on constate à divers endroits de la ville que de riches maisons sont transformées en ateliers. Donc, par exemple, les pièces donnant sur la rue sont quelquefois fermées au reste de l'habitat et louées ou laissées à disposition d'artisans qui vont s'installer dans ces endroits-là.
C'est une pièce de rapport, en quelque sorte.
Oui. Bon, là, nous, c'est un gros espace quand même, effectivement, qui est lié en plus dans le jardin à un chai dans lequel est fabriqué du vin, du coup, avec toute une installation de vignes.
D'accord.
Mais bon, c'est pas le seul cas de Pompéi. On a plusieurs maisons comme ça.
Qui sont dans ce même.
Qui sont réutilisées, adaptées, disons, à leurs besoins du moment.
Ouais, ouais. Ah oui, c'est lié justement à ce.
Certainement la reconstruction, oui, de la ville et une adaptation, disons, à leur situation.
D'accord, ok. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Je crois qu'on n'est pas loin de la fin, là. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Et ben oui, vous aviez des choses à remercier quand même, vos financements.
Oui, ben, alors ben, déjà l'équipe qui a fouillé pendant ces 6 années, qui a fait partie du projet, des étudiants, des professionnels de l'archéologie français et italien. Et oui, en fait, c'est un programme qui fait partie de programmes de recherche de laboratoire, donc du Centre Camille Julien, du Centre Jean Bérard aussi, et qui a des financements du ministère des Affaires étrangères français par le biais de la mission Italie du Sud. Qui permet de financer des fouilles à l'étranger, et aussi des fonds du CNRS et de mécénat.
D'accord.
Et voilà. Et tout ça se fait évidemment avec l'autorisation et l'accord du ministère des Biens culturels italien et du parc archéologique de Pompéi et de sa direction, qui nous permet de travailler dans des conditions exceptionnelles.
D'accord, très bien. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h ou à 19h en alternance. Donc un samedi c'est 15h, un samedi c'est 19h. Nos auditeurs peuvent également nous écouter sur Internet, sur le site radiozinex.org et donc télécharger éventuellement les émissions. Vous pouvez également sur ce site laisser des messages. Que je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Et vous avez aussi une page Facebook qui annonce les émissions, qui permet de les suivre. Et puis également, j'y mets de temps en temps des informations complémentaires sur mes invités. Et puis je termine en soulignant qu'il y a un sondage qui est en cours auprès des auditeurs. Et encore une fois, donc, je sollicite les auditeurs de Mare Nostrum pour non seulement répondre eux-mêmes, mais également peut-être faire répondre des gens de leur connaissance. Au revoir, à la prochaine.